Le deuxième fissureur introduisit délicatement ses nouveaux poissons rouges dans l'aquarium. Comme Evans, il aimait la solitude, mais il avait besoin de la compagnie de créatures vivantes qui ne soient pas humaines. Il parlait souvent à ses poissons, de la même manière qu'il parlait aux trisolariens, deux espèces qu'il souhaitait voir vivre longtemps sur la planète Terre. À cet instant, le texte de l'intellectron s'afficha sur sa rétine. Intellectron.
Nous avons consacré récemment un certain temps à analyser le roman Les Trois Royaumes. Comme tu l'as dit, le mensonge et le complot sont des arts, tout comme le sont les taches sur le corps d'un serpent.
Deuxième fissureur. Mais Dieu, encore une fois vous me parlez de serpent ? Intellectron.
Plus les taches du serpent sont belles, plus il est effrayant. Autrefois, nous ne nous inquiétions pas de l'exode des humains, tant qu'ils demeuraient en dehors du système solaire. Mais nous avons à présent revu notre jugement. Nous avons décidé d'empêcher toute évasion. Ce serait prendre un risque trop grand que de laisser filer dans l'univers des ennemis dont les pensées nous sont opaques.
Deuxième fissureur. Avez-vous un plan concret ?
Nous avons réajusté la position de notre flotte quand elle arrivera dans le système solaire. Quand elle sera parvenue à hauteur de la ceinture de Kuiper, elle se déploiera de manière à former un rempart tout autour du système.
Si les humains réussissaient à s'enfuir, ne serait-il pas trop tard pour les en empêcher ?
C'est exact. C'est pourquoi il vous faut écouter nos instructions. La prochaine mission de l'OTT sera d'empêcher ou du moins de retarder tout projet de fuite des humains.
Mais Dieu, vous n'avez en réalité aucun souci à vous faire de ce côté-là. Aucune évasion humaine à grande échelle n'aura jamais lieu.
Nous savons que vos technologies sont encore rudimentaires, mais les humains feront peut-être de grands progrès et seront capables de fabriquer un jour des vaisseaux générationnels.
La plus grande entrave au projet d'évasion n'est pas d'ordre technique.
Tu veux parler des rivalités entre vos nations ? La prochaine session extraordinaire des Nations Unies réussira probablement à résoudre ce problème, et si elle ne le peut pas, les pays les plus développés sont suffisamment puissants pour ne pas tenir compte de la résistance des pays en développement. Ils pourront les contraindre à mener à bien un tel projet.
La plus grande entrave au projet d'évasion n'est pas non plus liée aux rivalités internationales.
Qu'est-ce alors ?
Les rivalités entre les hommes eux-mêmes. Qui part et qui reste ?
Cela ne nous semble pas être un problème ?
Nous le pensions aussi, au début. Mais au regard de la situation présente, cet obstacle paraît indépassable.
Peux-tu nous l'expliquer ?
L'histoire de l'humanité vous est déjà familière, mais il vous est sans doute encore difficile de comprendre ce point. La question de savoir qui part et qui reste touche à celle des valeurs fondamentales de l'humanité. Ces mêmes valeurs qui ont par le passé apporté tant de progrès dans les sociétés humaines pourraient bien causer leur perte face à la crise ultime qui les traverse. Aujourd'hui encore, la majorité des êtres humains n'ont pas pris conscience de la profondeur de cette trappe. Mais Dieu, croyez-moi, aucun humain ne parviendra jamais à échapper à ce piège. Oncle Chang, vous n'êtes pas obligé de prendre votre décision maintenant. Prenez le temps de poser les questions que vous souhaitez.
Ce n'est pas rien comme somme, après tout, confia Shi Xiaoming à Chang Yuan Chao avec une mine sincère.
J'ai quand même un doute sur l'authenticité de tout cela. À la télévision, ils ont dit que ne vous préoccupez pas de ce que raconte la télévision. Il y a deux semaines, le porte-parole du gouvernement soutenait encore qu'il était impossible de geler les dépôts. Pensez rationnellement. Vous êtes un homme ordinaire, vous vous préoccupez de l'avenir de votre descendance. Imaginez maintenant le président et le premier ministre. Comment pourrait-il ne pas se préoccuper de celui de la nation chinoise? Et l'ONU de celui de l'humanité? Cette session extraordinaire a en fait pour but de mettre en place un plan de coopération internationale pour le lancement officiel de la grande évasion humaine. C'est une question urgente.
Chang Yuan Chao hocha lentement la tête.
C'est évident quand on y pense, mais je n'arrête pas de me dire qu'il reste encore du temps avant cette évasion. Dois-je vraiment m'en inquiéter dès aujourd'hui ?
Oncle Chang, vous faites fausse route complètement.
Du temps ? Croyez-vous vraiment que les navires d'évasion ne partiront que dans 3 ou 4 siècles ? Si c'était le cas, la flotte trisolarienne aurait au fait de les rattraper.
Mais alors quand décolleront-ils ?
Vous serez bientôt grand-père, n'est-ce pas ?
Oui, oui. Votre petit-fils pourra assister au départ des vaisseaux.
Pourra-t-il être à leur bord ?
Non, impossible. Mais son petit-fils aura peut-être sa chance.
Chang Yuan Chao fit mentalement le calcul. C'est dans 70 ou 80 ans.
Dans plus longtemps que ça. En temps de guerre, les gouvernements renforcent les politiques de contrôle de la population. Ils ne font pas que limiter le nombre de naissances, ils rallongent aussi les échéances entre chaque accouchement. Il faudra compter 40 ans entre chaque génération, ce qui fait environ 120 ans avant le départ des vaisseaux. Cela reste rapide. Les vaisseaux seront-ils prêts d'ici là? Oncle Chang, réfléchissez à ce qu'était le monde il y a à peine 120 ans. La Chine était encore sous l'empire des Qing. Il fallait un bon mois pour relier Hangzhou depuis Pékin. L'empereur lui-même devait rester plusieurs jours le cul dans sa chaise à porteur quand il voulait se rendre dans sa villégiature de montagne pour échapper aux chaleurs de l'été. Aujourd'hui, il faut à peine 3 jours pour faire le trajet de la Terre à la Lune. La technologie se développe à une vitesse folle, exponentielle. Sans compter que le monde entier concentrera toute son énergie sur la technologie aérospatiale. Les vaisseaux pourront être prêts d'ici environ 120 ans. Les vols spatiaux ne sont-ils pas dangereux? En effet, mais c'est toute la planète Terre qui sera en danger à ce moment-là, ne croyez-vous pas?
Regardez donc l'évolution de la situation mondiale aujourd'hui. Les principales ressources du pays servent à financer la construction d'une flotte spatiale, qui n'est pas une marchandise, qui ne produit aucun bénéfice. Le niveau de vie de la population empirera de jour en jour, d'autant qu'avec notre démographie, le simple fait de manger à sa faim deviendra vite un privilège. Et ce n'est pas tout. Voyez ce qui se passe à l'échelle internationale. Les pays en développement n'ont pas les moyens de se lancer dans un plan d'évasion, et les pays développés refusent la mise en commun des technologies. Mais les pays pauvres et les micro-pays ne déposeront pas les armes. Ne sont-ils pas en train de menacer de se retirer du traité sur la non-prolifération des armes nucléaires? Des actions plus radicales seront probablement menées dans le futur. Qui sait? Dans 120 ans, avant même que la flotte trisolarienne ait rejoint le système solaire, l'humanité aura peut-être été foudroyée par une guerre qu'elle aura elle-même provoquée. Bien malin celui qui pourrait prédire à quoi ressemblera l'époque de votre arrière-petit-fils. Et puis, les vaisseaux d'évasion ne sont pas tels que vous les imaginez. Il serait absurde de les comparer avec le vaisseau spatial Shenzhou ou avec la Station spatiale internationale. Ces vaisseaux-là seront beaucoup plus grands, de la taille d'une petite ville, avec des écosystèmes artificiels clos, un peu comme des planètes Terre en miniature. À bord, les humains pourront vivre une vie entière sans avoir besoin d'alimentation externe. Et il y a aussi le plus important, l'hibernation. On sait déjà comment faire à petite échelle. La majorité des passagers passeront leur voyage en état d'hibernation, et un siècle leur paraîtra filer comme un jour, jusqu'à ce qu'ils atteignent un nouveau monde ou bien qu'un accord soit trouvé avec les trisolariens pour retourner dans le système solaire. Ce n'est qu'alors qu'ils se réveilleront de leur long sommeil. La vie ne sera-t-elle pas meilleure que sur Terre? Chang Yuan Chao plongea dans une méditation silencieuse. Shi Xiaoming poursuivit.
Bien entendu, je ne vais pas vous mentir, voyager dans l'espace est, comme vous l'avez fait remarquer, une chose périlleuse. On ignore aujourd'hui devant quel danger on risque de se retrouver. Je sais bien que vous vous préoccupez surtout de la pérennité de votre lignée, mais si cela ne vous inquiète finalement pas tant que ça...
Chang Yuan Chao regarda Shi Xiaoming comme piqué au vif. Comment oses-tu dire ça, jeune homme? Comment pourrais-je ne pas être inquiet?
Mais non, oncle Chang, laissez-moi terminer, ce n'est pas ce que je voulais dire. Ce que je veux vous expliquer, c'est que même si vous n'aviez plus l'intention d'envoyer vos descendants en exil dans l'espace, ce fonds sera tout de même rentable, car il gardera toujours sa valeur. Lorsqu'il sera mis à la vente publique, son prix va flamber. La Terre ne manque pas de gens richissimes. Il n'y a pas d'autre investissement qui vaille, et la thésaurisation est désormais illégale. Pensez-y. Plus on a de l'argent, plus on s'inquiète du futur de sa famille, vous ne croyez pas?
Oui, oui, ça je sais. Oncle Chang, je suis tout à fait honnête avec vous. Le fonds d'évasion n'en est encore qu'à sa première phase, et seule une petite partie est aujourd'hui mise en vente au personnel interne du CDP. J'ai eu du mal à pouvoir me retrouver sur la liste.
Quoi qu'il en soit, prenez le temps d'y réfléchir et quand vous aurez pris votre décision, appelez-moi. Je vous aiderai à régler les formalités d'usage.
Shi Xiaoming partit,
Lao Chang se rendit sur son balcon. Il observa les étoiles rendues floues par les lumières étourdissantes de la ville. Il murmura intérieurement. « Mes enfants, votre aïeul doit-il vraiment vous envoyer dans un lieu où la nuit est éternelle ?» Quand le roi Wen des Chu se retrouva une nouvelle fois au beau milieu du désert du monde des trois corps, un petit soleil s'était levé dans le ciel. Ses rayons étaient sans chaleur, mais ils illuminaient cette plaine désolée. Ailleurs, rien d'autre.
« Est-ce qu'il y a quelqu'un ? Quelqu'un ? Quelqu'un ?»
Les yeux du roi Wen pétillèrent soudain. Il vit à l'horizon un cavalier qui approchait à grand galop. Il le reconnut de loin. Newton. Il se précipita vers lui en secouant vigoureusement les bras. Newton le rejoignit bientôt. Il tira sur les rênes de son cheval et sauta de sa monture, puis il réajusta machinalement sa perruque.
« Qu'as-tu donc à brailler de la sorte ?
Quel bougre a bien pu reconstruire ce lieu infernal ? » demanda-t-il, rageur.
Le roi Wen ne répondit pas à sa question, mais il attrapa sa manche et lança avec précipitation.
« Camarade, camarade, écoute ce que je vais te dire. Les dieux ne nous ont pas abandonnés, ou bien devrais-je dire qu'ils nous ont abandonnés pour une raison précise. Bientôt, ils auront de nouveau besoin de nous. Ils...
Je sais déjà tout. J'ai moi aussi été informé par l'intellectron, » dit Newton en repoussant impétueusement la main du roi Wen.
Cela veut donc dire que plusieurs de nos camarades ont été avertis. C'est parfait. Les communications entre l'organisation et les dieux ne tomberont plus sous le monopole d'une seule frange.
L'organisation existe-t-elle encore ?
Demanda Newton en épongeant sa sueur avec un mouchoir blanc.
Naturellement. Au lendemain de l'attaque globale contre l'OTT, la faction rédemptoriste s'est complètement effondrée. La faction survivaliste a fait sécession et fondé sa propre force indépendante. À présent, l'organisation n'est plus représentée que par la faction adventiste.
L'attaque aura au moins eu le mérite de purifier l'organisation.
Ta présence ici signifie forcément que tu es un adventiste, mais tu ne sembles pas au fait des dernières nouvelles. Agis-tu seul ?
Je n'étais en contact qu'avec un seul camarade. Il ne m'avait rien transmis de plus que l'adresse de ce site. Lors de la terrible dernière attaque, j'ai eu bien du mal à m'échapper.
Tu avais déjà pu donner un aperçu de tes instincts d'évasion à l'époque de l'empereur Tsin Chi Wang.
Newton jeta un œil autour de lui.
Sommes-nous en sécurité ici ?
Bien sûr.
Nous sommes au fond d'un labyrinthe à plusieurs niveaux. Nous sommes presque impossibles à trouver. Et même s'ils parvenaient vraiment à pénétrer ici, il leur serait impossible de tracer nos adresses IP. Après l'attaque, pour des raisons de sécurité, toutes les branches de l'organisation ont été isolées les unes des autres, n'entrant que rarement en contact. Nous avions besoin d'un lieu où nous retrouver et d'une zone tampon où accueillir les nouveaux membres de l'organisation. Nous sommes plus en sécurité ici que dans le monde réel.
Je n'en suis pas si sûr. N'as-tu pas remarqué que les offensives portées contre l'organisation se sont largement ralenties à l'extérieur ?
Ils sont malins. Ils savent que l'organisation est leur seul moyen de glaner des informations sur les dieux et leur seule chance de mettre le grappin sur les technologies qu'ils pourraient nous transmettre, même si la chance qu'une telle chose arrive est mince. C'est pour cette raison qu'ils nous laissent une petite marge de manœuvre pour préserver notre survie. Mais je crois qu'ils regretteront bientôt cette stratégie.
Les dieux ne sont pas aussi malins. Ils n'ont même pas compris en quoi consistait le pouvoir de la ruse.
Newton se retourna et remonta sur son cheval.
Bien, je vais prendre congé. Je dois d'abord m'assurer que cet endroit est sûr avant de pouvoir rester plus longtemps.
Je te garantis que cet endroit est entièrement sécurisé.
Si c'est effectivement le cas, beaucoup d'autres camarades se réuniront ici la prochaine fois. « Adieu !»
Un coup de fouet d'éperon et il repartit au galop. Lorsque les bruits de sabots du cheval martelant le sol se furent estompés, le petit soleil se changea en étoile volante et un voile obscur tomba sur le monde. Luoji était allongé paresseusement sur le lit, regardant la fille qui se rhabillait après sa douche avec des yeux encore brouillés de sommeil. À cet instant, le soleil déjà haut dans le ciel perça à travers les rideaux et transforma la fille en une merveilleuse silhouette qu'on aurait cru sortir tout droit de la scène d'un film en noir et blanc qu'il avait vu récemment.
lequel il ne s'en souvenait plus. Ce dont il avait pour l'instant besoin de se souvenir, c'était de son prénom. Comment s'appelait-elle? Pas de panique, son nom de famille d'abord. Zhang? Ce serait alors Zhang Shan? Ou bien Chen? Chen Jing Jing? Non, celle-ci, ça commençait déjà à dater. Il avait envie de jeter un coup d'œil dans son portable, mais il était dans sa poche et il avait jeté ses vêtements sur le tapis. Et puis son prénom ne figurait pas dans son répertoire, il ne se connaissait pas depuis assez longtemps. Il n'avait pas encore enregistré son numéro. Le plus important maintenant, c'était de ne pas refaire comme la dernière fois, quand il avait posé directement la question. L'issue s'était avérée catastrophique. Alors il tourna la tête vers le téléviseur qu'elle avait allumé et coupa le son. À l'image, on voyait une grande table ronde, celle du Conseil de sécurité des Nations Unies. Non, on ne disait déjà plus Conseil de sécurité, mais il n'arrivait pas à se rappeler la nouvelle appellation. Il s'était trop laissé aller ces derniers temps. « Monte le son, dit-il. » L'interpellé de la sorte, sans l'appeler par son prénom, révélait un manque flagrant de familiarité, mais il ne s'en souciait guère.
« Ça a l'air de t'intéresser ?»
Mais elle ne monta pas le son comme il le lui avait demandé. Elle s'assit pour se brosser les cheveux. Luoji tendit la main vers la table de chevet pour saisir un briquet et une cigarette. Il l'alluma et la coinça entre ses lèvres. Il sortit ses deux pieds nus de la couverture et remua ses gros orteils avec satisfaction.
« Regarde-toi, tu crois qu'on dirait un chercheur ?»
Elle voyait ses doigts de pied se tortiller dans le miroir.
« Un jeune chercheur, » rectifia-t-il.
« Mais jusqu'à aujourd'hui, je n'ai apporté absolument aucune contribution à la science.
Je ne suis pas fait pour travailler. Mais j'ai plein d'inspiration. Parfois, j'ai juste besoin de faire fonctionner un peu mes cellules grises pour trouver quelque chose que d'autres ont passé toute une carrière à chercher. Crois-moi ou non, il y a quelque temps, j'ai failli devenir célèbre.
Pour tes recherches sur les sous-cultures urbaines ?
Non, non. Pour une autre chose sur laquelle je travaillais en parallèle. J'ai créé une discipline, la cosmosociologie.
La quoi ?
La sociologie des extraterrestres, si tu veux.
Elle pouffa, puis elle jeta sa brosse et commença à se maquiller.
Tu ne te rends pas compte que les scientifiques vont devenir les stars de demain ? J'aurais pu être l'une d'entre elles.
Les recherches sur les extraterrestres, ça court les rues maintenant.
Oui, mais seulement depuis le début de cette merde.
Luoji désigna du doigt la télévision muette. À l'écran, on voyait toujours la grande table autour de laquelle était assise toute une assemblée. Le reportage était horriblement long, peut-être était-ce une retransmission en direct.
Avant ça, aucun chercheur ne s'intéressait aux extraterrestres. Ils ressassaient les mêmes théories dans les mêmes vieux bouquins et en tiraient de la célébrité. Mais le grand public a fini par se lasser de ces vieux nécrophiles culturels. C'est là que je suis arrivé.
Luoji pointa ses deux bras nus vers le plafond.
La cosmosociologie ! Les extraterrestres, des tas de races d'extraterrestres, plus nombreuses que la population totale de la Terre. 10 milliards de races d'extraterrestres ! Le producteur de l'émission télévisée Lecture Room est même venu me voir pour me proposer de monter une émission. Et puis est arrivé ce qui est arrivé, et ensuite...
Il leva la main et traça un cercle dans les airs, puis il poussa un soupir. Elle ne l'écoutait pas attentivement. Elle lisait les sous-titres qui défilaient en bas de l'écran. « Nous prendrons toutes les mesures qui s'imposent contre l'évasionnisme. Qu'est-ce que ça veut dire ?»«
Qui a dit ça ?»«
Tchernoff, je crois. »
Il veut dire qu'on doit être aussi intransigeant avec les évasionnistes qu'avec l'OTT. Le premier Noé qui construit une arche, on lui enverra des missiles aux fesses.
C'est quand même un peu rude, non ?
Non, c'est une décision sage. De toute façon, ça fait longtemps que j'y ai réfléchi. Même sans ces mesures, personne ne s'envolera. Tu as lu ce roman, La ville flottante, de Liang Xiaosheng ?
Non, c'est un vieux truc, pas vrai ?
Oui, je l'ai lu quand j'étais gamin. Shanghai s'apprête à être englouti par les eaux. Un groupe de personnes va de maison en maison chercher les gilets de sauvetage qu'on y cacherait. Puis ils les rassemblent et les brûlent.
Pourquoi ?
Parce que si on ne peut pas sauver tout le monde, alors personne ne doit survivre.
Le passage le plus marquant du bouquin, c'est quand cette gamine mène le groupe jusqu'à une maison et crie tout excité « Là, ils en ont encore un !» Tu es typiquement le genre de salaud qui croit du coup que la société entière l'est aussi.
Je me trompe peut-être ? Tu n'as qu'à regarder l'axiome fondamental des sciences économiques, le profit. Sans ce principe simple, c'est toute l'économie qui s'effondre. Les axiomes fondamentaux de la sociologie n'ont pas encore été clairement déterminés, mais il se pourrait bien qu'ils soient encore plus sombres que ceux des sciences économiques. La vérité est toujours pleine de poussière. Un petit nombre de personnes finiront peut-être par s'envoler dans l'espace, mais si on l'avait su plus tôt, on ne se serait pas donné autant de mal.
Autant de mal ? Pourquoi la Renaissance ? Pourquoi la Grande Charte ? Pourquoi la Révolution française ?
Si les sociétés humaines étaient encore organisées en classes et que les frontières entre celles-ci étaient encore verrouillées par le fer, le moment venu, ceux qui auraient dû partir seraient partis et ceux qui auraient dû rester seraient restés, et personne n'aurait eu son mot à dire. Si ça s'était passé sous la dynastie des Ming ou des Qing, je serais certainement parti et tu serais certainement resté, mais ce n'est plus imaginable aujourd'hui.
En tout cas, ça ne me dérangerait pas que tu t'envoles dès maintenant.
Et elle n'avait pas tout à fait tort. Ils étaient arrivés à un stade où chacun devait se débarrasser de l'autre. Lors de ses dernières aventures, il avait chaque fois réussi à atteindre cette étape, ni plus tôt ni plus tard. Il était fier de sa capacité à pouvoir contrôler le rythme de ses relations, surtout cette fois-ci. Il ne se connaissait que depuis une semaine et la séparation s'amorçait comme sur des roulettes, aussi élégamment qu'une fusée abandonnant son propulseur d'appoint.
« Tu sais, la cosmosociologie, ce n'était pas vraiment mon idée au départ. Tu veux savoir qui me l'a suggéré ? Je vais te le dire, rien qu'à toi, accroche-toi bien !»
commença Luoji qui souhaitait reprendre le fil de la conversation d'origine.
« Laisse tomber, je ne peux déjà plus croire à ta sincérité à part peut-être une phrase. »
« Ah, laissons tomber alors.
De quelle phrase parles-tu ?
Lève-toi, j'ai faim. » Elle jeta sur le lit les vêtements qui trônaient sur le tapis. Ils prirent le petit déjeuner dans le grand restaurant de l'hôtel. Leurs voisins de table affichaient pour la plupart des mines sérieuses, et Luoji et la jeune femme purent à quelques reprises attraper des bribes de conversation. Luoji n'avait pas particulièrement envie de les écouter, mais il était comme une bougie dans une nuit d'été. Les mots prononcés autour de lui venaient virevolter comme des petits insectes tentant de s'insinuer dans son cerveau. Évasionnisme, mise en commun des technologies, OTT, réformes économiques en période de guerre, base équatoriale qui servirait de lieu de jonction entre la surface de la Terre et le futur ascenseur spatial, révision de la Charte des Nations Unies engagée afin de répondre aux besoins du Conseil de défense planétaire, CDP, périmètre de défense primaire en orbite basse, programme intégré indépendant.
Comment notre époque a-t-elle pu devenir aussi insipide ?
Lâcha tristement Luoji, tout en continuant à découper son omelette à la fourchette. Elle hocha la tête.
Je suis d'accord. Hier, ils ont posé une question idiote dans l'émission Joyeux Dictionnaire. Attention à la réponse que tu vas donner, gros bonnet.
Commença-t-elle en pointant Luoji avec sa fourchette et en imitant le ton de la présentatrice de l'émission.
« En l'an 120 avant la fin du monde, vos descendants en seront à la 13e génération. Vrai ou faux ?»
Luoji reprit ses couverts et secoua la tête.
« Pour moi, ce sera la génération de rien du tout. »
Il joignit les mains.
« Je prie pour que ma lignée s'éteigne après moi. »
Elle poussa un grognement nasal et dédaigneux.
Tu m'as interrogé sur la phrase que je serais prête à croire sincère. La voilà. Tu as déjà dit ça. Tu es vraiment ce genre de mec.
Était-ce la raison pour laquelle elle voulait le quitter ?
Luoji ne posa pas la question à voix haute, de peur que les choses ne s'enveniment. Mais elle avait semblé deviner ce qu'il avait sur le cœur et reprit. Moi aussi je suis ce genre de fille. C'est toujours agaçant de tomber sur quelqu'un qui pense comme vous.
Surtout quand c'est quelqu'un du sexe opposé. Approuva Luoji de la tête.
Mais après tout, on peut dire que c'est une posture responsable.
Quelle posture ? Celle de ne pas avoir de gosse ?
Bien sûr !
Cria Luoji en désignant avec sa fourchette leurs voisins de table, qui discutaient maintenant des grandes transformations économiques du pays.
Est-ce qu'ils ont seulement idée de ce que vont vivre leurs descendants ?
Ils passeront leur journée à trimer dans des chantiers navals, enfin je veux dire dans des usines de construction de vaisseaux spatiaux. Ils feront la queue à la cantine collective et, le ventre gargouillant, ils tendront leur bol en attendant leur louche de gruau. Et puis quand ils seront plus grands, Oncle Sam, la Terre, leur balancera « Nous avons besoin de vous, rejoignez l'armée et battez-vous pour la gloire !»
Ça ira sans doute mieux pour la génération de l'Apocalypse.
Vieillir pour attendre l'Apocalypse. Tu peux imaginer comme c'est déprimant? Tiens, puisqu'on en parle, les grands-parents de la génération ultime ne mangeront peut-être pas à leur faim. Mais même ce futur-là ne se réalisera pas. Regarde comment la population terrienne traverse cette épreuve aujourd'hui. Elle s'imagine qu'elle résistera jusqu'au bout, mais on ignore totalement comment elle va finir.
Ils quittèrent l'hôtel après le petit déjeuner et se retrouvèrent enlacés par les rayons de soleil de l'aube où flottait un enivrant parfum frais et sucré.
Nous devons nous dépêcher d'apprendre à vivre. Ce serait quand même un drame de ne pas y arriver maintenant, fit Lu Oji en regardant s'écouler le flot des voitures sur la chaussée.
Nous avons déjà appris, non?
Dit-elle en cherchant un taxi des yeux.
Dans ce cas,
Lu Oji l'observa avec un regard interrogateur. Manifestement, il n'était plus nécessaire de se rappeler son prénom.
« Adieu, » dit-elle en hochant la tête, puis ils se serrèrent la main et échangèrent un baiser fugace.
« Nous nous reverrons peut-être ?» lâcha Lu Oji avant de regretter aussitôt.
Jusqu'ici, tout s'était bien passé, pourvu que sa phrase n'ait pas entravé le processus. Mais il s'inquiétait inutilement.
« Je ne crois pas, » fit-elle en se retournant brusquement et en faisant voler son petit sac au-dessus de son épaule. Plus tard, Lu Oji repenserait à maintes reprises à ce petit détail, se demandant si elle l'avait fait exprès. Elle portait toujours ce sac à main Louis Vuitton de manière singulière et, dans le passé, il lui était déjà arrivé de le jeter de cette manière par-dessus son épaule, mais cette fois, elle le lui avait presque lancé au visage. Il avait reculé d'un pas pour l'esquiver, mais s'était pris les chevilles dans une borne incendie et s'était affalé sur le sol. Cette chute lui avait sauvé la vie. Au même instant, sur la chaussée, deux voitures se percutèrent de plein fouet. Alors que le bruit de la collision n'avait pas encore retenti, une Polo changea brutalement de trajectoire pour éviter l'accident et fonça à toute allure sur la jeune femme et Lu Oji. La culbute de ce dernier lui permit d'échapper miraculeusement à la collision, et le pare-choc de la Polo ne vint finalement qu'effleurer l'un de ses pieds en voyant l'air. Le corps de la jeune fille fit une vrille de 90 degrés et elle se retrouva la tête la première sur le coffre de la voiture. À aucun moment dans toute cette action il n'entendit le bruit sourd de l'autre impact. Il ne vit que le corps voler par-dessus le toit du véhicule et atterrir derrière lui sur la chaussée, comme une poupée de chiffon sans os. Là où elle était retombée, une traînée de sang semblait former un symbole énigmatique. Et en voyant ce symbole sanguinolent, Lu Oji se souvint subitement de son prénom.